Bonjour à tous, c'est Lionel Camille. Je vais vous raconter maintenant une ou plutôt trois petites histoires vraies et assez mystérieuses de disparitions aux États-Unis, des histoires assez effrayantes, des histoires 100% inédites que vous n'avez sûrement jamais entendues ailleurs. On va démarrer tout de suite le récit. Vous allez voir, il va être fragmenté en plusieurs parties. J'innove. On va partir maintenant donc aux États-Unis. On va remonter dans le temps jusqu'en 1989. C'est donc une histoire 100% inédite, en exclusivité, rien que pour vous, sur ma chaîne, Lionel Camille, disparu.
Nous sommes en novembre 1989, près d'Atlanta, la capitale de la Géorgie, aux États-Unis. Héloïse Lindsay est une étudiante de 22 ans. Elle est sortie diplômée du Agnes Scott College, une université privée féminine d'art et lettres, proche d'Atlanta. Vous ne verrez pas de photo d'Héloïse, car elle n'a pas été divulguée dans la presse. Le samedi 4 novembre 1989, c'est les vacances de la Toussaint. Héloïse a envie de marcher seule quelques jours dans la nature, et elle décide de partir, pour s'aérer, et aussi pour réfléchir à son avenir. Randonneuse expérimentée, la jeune femme a choisi pour son escapade solitaire le sentier de Foothills en Caroline du Sud, à 240 km au nord-ouest d'Atlanta. Beaucoup plus court et moins célèbre que celui des Appalaches, le sentier de Foothills est néanmoins considéré comme l'un des plus beaux des États-Unis. D'une longueur de 123 km, il relie le parc d'État de Table Rock à celui d'Oconee, et traverse des territoires aussi sauvages que dépeuplés. Il faut compter 5 à 10 jours pour le parcourir intégralement, mais on peut également effectuer des randonnées à la journée. Le sentier de Foothills démarre au cœur du parc d'État de Table Rock, dans le comté de Pickens, quasiment à la frontière avec la Caroline du Nord. Dominé par une montagne rocheuse au sommet plat qui donne son nom au parc, Table Rock offre des paysages sublimes. Selon une légende cherokee, c'est à cette table magistrale en roche que le grand esprit s'asseyait pour prendre ses repas. Le samedi 4 novembre 1989, Héloïse arrive donc au parc d'État de Table Rock avec ses vêtements de randonnée, son sac à dos contenant de quoi s'alimenter pendant une semaine, et sa tente. À l'accueil du parc, elle signe le registre puis part sur le sentier de Foothills. Par la suite, les jours défilent, et Héloïse ne donne plus de ses nouvelles. Au début, ses proches ne s'affolent pas trop. Héloïse ne possède aucun téléphone portable. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1989, ces appareils étaient peu courants. Seulement, le silence radio de l'étudiante s'éternise. Au bout d'une semaine, la famille Lindsay n'a toujours reçu aucune nouvelle d'Héloïse. Elle commence à être réellement inquiète et alerte la police. Le samedi 11 novembre 1989, le bureau du shérif du comté de Pickens amorce une opération de search and rescue, recherche et sauvetage, pour retrouver Héloïse. Plus de 100 personnes sillonnent le sentier de Foothills et les zones environnantes à la recherche de la randonneuse. Dans le ciel, des hélicoptères tournent non-stop pour tenter de la localiser depuis les airs. Seulement, rien n'y fait. La jeune femme s'est évanouie dans la nature. Le samedi 18 novembre 1989, après 7 jours de recherche stérile, les autorités prennent la décision déchirante de mettre fin à l'opération. 2 semaines après sa disparition mystérieuse, Héloïse Lindsay est présumée morte. 9 jours passent, et le lundi 20 novembre 1989, un homme nommé Wayne Hooper part chasser le cerf dans une forêt de Caroline du Sud. Tandis qu'il est en train de traquer du gibier à quelques kilomètres au nord du sentier de Foothills, il tombe par hasard sur une jeune femme seule, au fin fond des bois. En tenue de randonneuse, la femme a le visage égratigné et se déplace avec difficulté à cause d'ampoules infectées aux pieds. Hooper lui propose son aide, mais elle refuse. Aux abois, l'inconnue paraît très méfiante.
« Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, » lui dit-elle.
À force de patience, le chasseur réussit à la convaincre de le suivre jusqu'à sa voiture. Une fois arrivé à son véhicule, Hooper la conduit immédiatement à l'hôpital. Le chasseur prévient aussi la police qui vient interroger la rescapée. Et lorsque cette dernière leur décline son identité, les officiers ne reviennent pas, car il s'agit bel et bien d'Héloïse Lindsay. Disparue dans la nature depuis 2 semaines, tout le monde la croyait morte. Héloïse a réussi à survivre, livrée elle-même, dans une région hostile. En dépit de ses blessures aux pieds et de quelques coupures, elle est en bonne santé. C'est un véritable miracle. À partir du moment où le shérif du comté de Pickens demande des explications à la miraculée, cette histoire bascule vraiment dans le mystère. D'après un article de Associated Press en date du 22 novembre 1989, Héloïse Lindsay raconte que 2 jours après son départ, le lundi 7 novembre 1989, elle a eu la sensation d'être suivie par des hommes sur le sentier de Foothills. Selon elle, elle ne pouvait pas les voir, mais seulement sentir leur présence dans les bois.
J'ai utilisé mon instinct, a-t-elle déclaré aux médias.
Et son instinct ne lui disait rien de bon. Selon elle, ces hommes n'avaient pas de bonnes intentions à son égard. Bien au contraire. La randonneuse avait même l'impression d'être traquée par ces gens. Des gens qui se cachaient dans la végétation dense. Héloïse pouvait même parfois les entendre parler entre eux. Mais elle ne parvenait pas à discerner leurs paroles. Prise de peur, elle a alors quitté le sentier de Foothills pour leur échapper, et c'est là qu'elle s'est perdue. La fatigue aidant, Héloïse a jeté son sac à dos pour ne pas s'encombrer. Elle a juste gardé sur elle des morceaux de pommes séchées à grignoter, mais selon ses dires, elle était trop effrayée et gelée pour avoir faim. Les jours suivants, la randonneuse a longuement erré dans cette région inhospitalière de Caroline du Sud. Consciente que des secours étaient sûrement en train de la chercher, Héloïse n'a pas osé signaler sa présence. Par peur. Elle a vu des hélicoptères passer dans le ciel, mais elle n'a pas voulu allumer de feu, pour ne pas que les hommes, ces mystérieux hommes, la repèrent. Une fois rentrée dans sa famille à Atlanta, Héloïse a indiqué aux journalistes que pendant 15 jours, elle avait connu des moments de désespoir, seule dans la nature, mais qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même qu'elle allait vivre. Si l'étudiante est restée formelle sur l'existence des gens qui la traquaient dans les bois, la police locale a semblé, elle, beaucoup moins convaincue.
Nous ne pensons pas que quiconque la poursuivait, a déclaré Tim Morgan, l'adjoint du shérif du comté de Pickens.
Pour les autorités, la jeune femme a probablement été effrayée par de simples chasseurs. En effet, plusieurs d'entre eux étaient présents dans le secteur de la disparition de l'étudiante le lundi 7 novembre 1989. Aux États-Unis, de nombreux chasseurs se servent de talkie-walkie pour communiquer entre eux dans la forêt. En entendant des voix inconnues résonner aux alentours, Héloïse aurait cru que l'on parlait d'elle et cédé à la panique. La jeune femme a reconnu qu'elle était devenue paranoïaque à la fin, quand elle a été secourue par Wayne Hooper. Mais elle n'a pas voulu en démordre. Il y avait aussi d'autres hommes, des hommes qui la surveillaient étroitement dans les bois. Le bureau du shérif de Pickens, qui n'a trouvé aucun indice allant dans ce sens, a laissé entendre à la presse qu'il ne mènerait aucune enquête.
Voilà, chers spectateurs, je viens de vous présenter l'histoire vraie d'Héloïse Lindsay, donc une histoire qui a été rapportée dans les médias. Vous avez vu les coupures de presse. On peut dire qu'Héloïse est une jeune femme de caractère. Elle a réussi à survivre seule pendant 2 semaines dans une zone très sauvage de Caroline du Sud. Néanmoins, il faut se poser la question, quel crédit accorder à son témoignage? On ne sait pas trop quoi en penser, en fait, parce que est-ce que cette jeune femme a été paranoïaque? Est-ce qu'elle a imaginé tous ces hommes qui étaient après elle dans les bois? Ou est-ce qu'au fond, ça n'était que de simples chasseurs? Je sais pas, personne ne sait, elle seule le sait, j'ai envie de dire. En tout cas, ça reste très intriguant. Et sa mésaventure me rappelle un autre fait divers qui est survenu cette fois en 2012 dans l'Arkansas, donc un autre état des États-Unis. Une autre histoire que vous allez découvrir maintenant.
Nous sommes le 22 septembre 2012, près de St. Joe, dans le nord de l'Arkansas, non loin de la forêt nationale d'Ozark. Une femme de 53 ans nommée Linda Arteaga, dont vous allez voir tout à l'heure la photo, fait une randonnée dans la nature, près de St. Joe, avec son frère Eddie, quand tout à coup, il se perd de vue. Sans trop savoir comment, chacun s'égare de son côté, dans les bois touffus. Au bout de 2 jours, Eddie réussit enfin à émerger de l'enfer végétal. Mais Linda est toujours perdue dans la nature, au cœur de l'un des territoires les moins accueillants de l'Arkansas. Dès qu'il revient chez lui, Eddie prévient les autorités qui lancent une mission de recherche et de sauvetage dans les bois. Pendant 5 jours, on cherche désespérément Linda. Les policiers commencent à se demander s'ils vont un jour retrouver la disparue. Quand, 5 jours plus tard, miracle, Linda Arteaga est secourue. Par chance, la quinquagénaire a été retrouvée indemne. Pour survivre, elle a mangé des plantes, des noix et des baies sauvages. On ne peut que se réjouir de l'issue positive de cette affaire de disparition relatée par le journal The Oklahoman. Et là où cette histoire devient troublante, c'est que Linda a rapporté aux journalistes un témoignage étrange. Elle a expliqué que, quand elle était perdue dans la forêt, elle a vu d'autres personnes dans les bois. « Je leur ai demandé de l'aide, mais ils ont fait comme s'ils ne m'entendaient pas », a-t-elle déclaré. « Ces gens se cachaient dans les buissons. C'étaient des gens bizarres, très bizarres. » Que penser du témoignage de Linda? Cette femme a assuré dire la vérité, mais certains ont eu des doutes. Pour mieux comprendre, revenons à Eddie, le frère de la disparue, qui a réussi à rentrer chez lui au bout de 2 jours. En revenant chez lui, Eddie a eu la bonne surprise d'apercevoir sa sœur Linda sur le porche de sa maison. Seulement, il n'en était rien. Sa sœur était toujours perdue au fin fond des bois. En réalité, il semblerait qu'Eddie ait eu des hallucinations, car il a expliqué aux journalistes que pour survivre, il avait mangé toutes les baies trouvées dans la forêt. D'après les médecins, certaines de ces baies contenaient potentiellement des substances toxiques susceptibles de provoquer des hallucinations. Cela expliquerait ainsi pourquoi Eddie avait cru voir sa sœur en rentrant chez lui. Et également pourquoi Linda aurait peut-être vu des gens mystérieux dans les bois.
Pour revenir à l'affaire d'Héloïse, est-ce que cette jeune femme n'aurait pas été aussi induite en erreur après avoir mangé des baies toxiques? Est-ce que... ça ne serait pas la cause de ces curieuses déclarations. Héloïse disait qu'elle était aussi suivie par des mystérieux hommes. Rappelez-vous, tout comme Linda. Donc cette thèse paraît plausible, mais le petit problème, c'est que Héloïse n'a mangé aucune baie. Elle s'est contentée de manger des morceaux de pommes séchées. Donc là, ça ne colle pas. De plus, Héloïse ne souffrait a priori d'aucune maladie, aucun trouble mental, elle ne souffrait pas de schizophrénie, et elle ne touchait pas à la drogue. Donc son témoignage ne peut pas être rejeté en bloc. Est-ce que, quand même, sous un stress extrême, Héloïse aurait été induite en erreur et est-ce qu'elle aurait confondu les chasseurs avec des personnes menaçantes? C'est possible. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'elle a suivi son instinct et elle a bien fait. Parce que l'instinct, c'est souvent notre meilleur allié. De mon point de vue, nous devrions toujours écouter notre petite voix intérieure, et encore plus lorsqu'on évolue en milieu sauvage, dans la nature. Parce que loin des nuisances générées par le monde moderne, l'homme se reconnecte à la nature et par la même occasion à son être profond, je pense. Guidé par son intelligence intuitive, il retrouve en lui toutes les ressources pour survivre. Et c'est exactement ce qu'a fait Héloïse. En tout cas, selon moi, il est vraiment regrettable que la police de Caroline du Sud, le shérif du comté de Pickens, n'ait pas jugé bon faire une enquête approfondie pour vérifier les dires de cette jeune femme. Est-ce que les autorités craignaient de provoquer une psychose dans la population locale? Une psychose préjudiciable au tourisme local, hein? Pas forcément. Faut pas sombrer non plus dans le complotisme et faut pas jeter la pierre aux forces de l'ordre. C'est vrai qu'aux États-Unis, les shérifs locaux, ils ont des ressources limitées et ils les affectent aux tâches prioritaires. Il est tout de même légitime de se demander si des investigations supplémentaires n'auraient pas été nécessaires quand même, parce que Héloïse est toujours restée sur ses positions. Elle a toujours affirmé, même des années après, qu'il y avait bien d'autres hommes avec elle dans les bois, et que ce n'était pas de simples chasseurs. Mais était-ce seulement des hommes? Que pensait donc de la mésaventure d'Héloïse en 1989? Est-ce que des hommes menaçants la pourchassaient réellement, ou est-ce qu'elle a tout imaginé dans sa tête? Il y a un léger doute qui perdure quand même, parce que 9 ans plus tard, le sentier de Foothills a été le théâtre d'une disparition réellement mystérieuse.
Le 21 avril 1998, un park ranger du parc d'État de Table Rock fait une ronde dans le parc quand il trouve un véhicule en stationnement depuis plus d'une semaine sur l'un des parkings. Le parking est situé non loin du point de départ du sentier de Foothills. Le propriétaire de la voiture, une Chevrolet Beretta, est rapidement identifié comme étant Jason Knapp. Jason Knapp est un étudiant brillant de 20 ans. Il suit une formation en ingénierie mécanique à l'université de Clemson, en Caroline du Sud. Le park ranger lance une enquête. Et cette enquête révèle que le 12 avril 1998, le dimanche de Pâques, le jeune homme est venu faire un jogging sur le sentier de Foothills, à seulement 40 minutes de route du campus universitaire de Clemson. Il est certifié que Jason s'est rendu lui-même dans le parc d'État de Table Rock, puisque les enquêteurs ont retrouvé ses empreintes digitales sur un ticket d'entrée acheté à son arrivée. Malgré des fouilles intensives, les sauveteurs ne parviennent pas à localiser Jason. L'étudiant s'est tout simplement volatilisé. Mais s'il avait eu un accident mortel dans le secteur, en faisant son jogging par exemple, pourquoi n'a-t-on pas trouvé son corps, ou au moins l'un de ses effets personnels? Les chaussures de running et les vêtements en matière synthétique mettent un siècle à se dégrader dans la nature. Cette absence d'indices matériels est donc anormale. Elle est d'autant plus incompréhensible que pendant 20 ans, les recherches ne vont pas s'arrêter. Pendant 20 ans, Deborah Booger, sa mère, va organiser des battues dans le parc. Deborah Booger estime d'ailleurs qu'elle a consacré en moyenne 6 mois par an à chercher son fils dans le parc. Il a fallu attendre le 31 janvier 2018, soit 2 décennies après les faits, pour que Jason Knapp soit déclaré officiellement mort. Effectivement, dans les cas de disparition inexpliquée, la procédure d'obtention d'un certificat de décès est interminable en l'absence de corps. Dans cette triste affaire, Madame Booger n'a pas obtenu un début de commencement de réponse. Aussi, permettons-nous de soulever une hypothèse. Seul sur le sentier de Foothills, un dimanche de Pâques, alors que l'endroit était complètement désert, Jason aurait-il eu affaire aux mêmes hommes que ceux dont avait parlé Héloïse Lindsay 9 ans plus tôt?
Donc on vient de voir qu'au moins deux personnes ont disparu dans des circonstances mystérieuses sur le sentier de Foothills et que l'une d'entre elles n'a jamais été retrouvée. Qu'est-il arrivé à Jason Knapp? Impossible de le dire. Tout laisse à penser qu'il s'est volatilisé sur ce sentier. Il est effectivement venu sur place et a laissé sa voiture sur le parking. On peut raisonnablement dire qu'il n'a pas fui volontairement dans ces conditions, en tenue de jogging. Est-ce qu'il aurait été agressé par quelqu'un près du parking? Peut-être, mais on aurait probablement trouvé des traces de lutte, des traces de sang. En tout cas, on ne peut pas quand même écarter l'hypothèse qu'il ait été tué et emmené à bord d'une autre voiture, loin du parc. D'accord, mais quel aurait été le mobile? Et puis, il faut savoir que Jason Knapp avait été dans l'armée. Il avait donc apparemment la capacité de se défendre. Contre un assaillant seul peut-être, mais pas peut-être contre plusieurs hommes, plusieurs agresseurs. Et il faut donc se poser la question, et si Héloïse avait dit vrai? Et si des mystérieux hommes vivaient en secret dans la nature, dans la région, près du sentier de Foothills? Des hommes sauvages, par exemple. Est-ce qu'il s'agissait de Wild Men? Les hommes sauvages, dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. En effet, le sentier de Foothills, il n'est qu'à seulement 80 km des Great Smoky Mountains, où avait disparu le petit Dennis Martin, en 1969. C'est un fait, on a déjà vu des cas de personnes, des hommes qui ont vécu longtemps seuls dans les forêts d'Amérique du Nord. On peut citer à nouveau l'exemple de Christopher Knight, un ancien ermite et cambrioleur qui a vécu sans contact humain pendant 27 ans, entre 1986 et 2013, dans les forêts du Maine. Pendant 27 ans, Christopher Knight a vécu seul et isolé dans les forêts d'Amérique du Nord. Il n'a prononcé qu'un seul mot en 27 ans. Ça, c'est assez drôle. Dans les années 1990, il a rencontré par hasard un randonneur sur un sentier et lui a juste dit « Salut ». On peut dire que le sujet de conversation était assez léger. Voilà. Knight a finalement été capturé par un policier lors d'un cambriolage parce qu'il volait de la nourriture chez les gens pour survivre. Knight n'était pas agressif. C'était un peu un gentil sauvage, voilà. Mais il est possible que certains de ces hommes sauvages soient dangereux et qu'ils soient complètement désocialisés. On peut peut-être aussi envisager qu'il y ait encore des hillbillies, c'est-à-dire c'est ce qu'on surnommait les pecnos des montagnes, entre guillemets, des arriérés un petit peu, qui vivent entre eux, comme ça, au fin fond des bois, dans les montagnes. On peut imaginer qu'il en existe encore, dans les secteurs reculés des États-Unis. D'ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs à des films de cinéma, vous savez, je suis fan de cinéma, des films tels que Délivrance qui a été réalisé par John Boorman, qui est sorti en 1972. Ça a un petit peu vieilli, mais bon, c'est quand même un film intéressant. Dans ce film, tourné en Géorgie, quatre citadins décident de descendre une rivière sauvage en canoë, mais ils vont tomber sur des hommes pour le moins agressifs. Et le week-end va tourner au cauchemar. Donc ce film est adapté d'un roman de James Dickey, et qui aurait été inspiré de faits réels, voilà, qui se serait déroulé en Géorgie. Et il y a aussi un autre film que je vous conseille, celui-là, excellent, qui s'appelle Southern Comfort, qui a été traduit par Sans Retour en France, un film réalisé par Walter Hill, qui date de 1980. Il n'est pas tout jeune, mais c'est un excellent film. Et dans ce film, des soldats de la garde nationale font des exercices dans les marécages de la Louisiane, et ils sont traqués par des chasseurs cajuns. Voilà, des gars un peu sauvages qui commencent à les pourchasser. Donc je vous recommande particulièrement ce dernier film si vous ne l'avez jamais vu. Il est moins connu que Deliverance, mais il est meilleur à mon sens. Voilà.
Of an endless summer. This is Chicane
Sunsets.
Loving every breath of you. Still my heart this moment.
sets.